Bonjour, bonjour, Yves, micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans, sur les petits écrans un peu partout, à vrai dire, depuis un sacré bout de temps. Et ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à l'un des durs d'Hollywood, un de ces acteurs virils, plutôt cantonnés au second rôle, mais qui firent la grande richesse du cinéma américain des années 50-60, des gars solides et peu causants, qui avaient puisé, les acteurs en tout cas, dans une vie passé, tourmenté, eh bien, la puissance physique et interprétative à l'écran. Et c'est le cas, après toutes ces circonlocutions, de Lee Marvin, né le 19 février 1924 à New York. Et on ne le devinerait pas en jugeant son physique, mais Lee Marvin, en fait, venait d'un milieu aisé, puisque son papa était avocat et qu'il fréquenta dans un premier temps de nombreuses écoles privées de l'Est des États-Unis, où la scolarité doit être à peu près par an et par élève le budget de l'éducation nationale en France. Ensuite, eh bien, l'homme est enrôlé dans les marines alors qu'il est encore étudiant, mais nous sommes en 1943, l'Amérique est en guerre. Il y sera grièvement blessé dans le Pacifique Sud. Voilà un gars qui vraiment aura connu la souffrance et qui pourra donc mieux incarner ou plutôt jouer la violence à l'écran. Et d'ailleurs, puisque le destin est une chose bien désinvolte, eh bien, c'est ces blessures et l'immobilisation forcée qui en résultera pour lui pendant un an, qui l'amène dans un premier temps à faire du théâtre, à tourner ensuite à Broadway. On le voit notamment dans Un tramway nommé Désir de T.W.C. Williams, jusqu'à ce qu'en 1951, parcours relativement courant pour les acteurs de théâtre, eh bien, il fasse sa première apparition à l'écran dans un film d'Henri Hathaway intitulé La Marine est dans le lac, un film que je n'ai pas vu mais qui reste assez connu, d'abord parce que c'est le premier film dans lequel on trouvait Lee Marvin, mais c'est aussi le premier film dans lequel on trouvait Charles Buczynski. Musique, Charles Buczynski, eh bien, c'est Charles Bronson, voilà, donc deux des grands durs d'Hollywood des années 50, 60, 70 et plus si affinité, eh bien, débutèrent dans le même film bien oublié d'Henri Hathaway. Pendant une dizaine d'années, eh bien, Lee Marvin sera cantonné, comme je l'ai dit, au second rôle. Et on le verra notamment, puisque j'étais assez bavard, en 1954, dans un film signé Edward Mitrick. Alors, Edward Mitrick, c'est un gars qui est très fort pour le Scrabble, puisque c'est écrit D-M-Y-T-R-Y-K. Mais on n'a pas le droit de mettre des noms propres au Scrabble. Le film, il s'appelle Ouragan sur le Ken. La musique, elle est signée de Max Steiner. J'en reparlerai après, mais on va écouter un extrait de sa bande originale, Ouragan sur le Ken, dans 24 notes secondes. Ah voilà, bah vous l'aurez compris, je pense, en écoutant cet extrait de la bande originale signée Max Steiner d'un film intitulé en français « Ouragan sur le Caen », mais plus justement intitulé en anglais « The Caen Mutiny », puisqu'en fait « The Caen Mutiny » racontait justement l'histoire en 1943 d'une mutinerie sur un vaisseau de guerre commandé par un commandant qui n'est pas à la hauteur et qui pourtant est joué par Humphrey Bogart, dont c'est le 71e film. Et du coup, eh bien, il y a mutinerie, procès, ce genre d'histoire militaro-juridique comme les Américains en raffolent. Nous, c'est un peu moins sûr, aux côtés d'Humphrey Bogart, qui est déjà bien âgé, il faut le reconnaître, est déjà bien malade en 1954. Eh bien, il y a José Ferrer, il y a Von Johnson, Fred McMurray, des acteurs un peu oubliés, et puis dans un petit rôle, le rôle de Ball, je vous laisse traduire en français la chose, eh bien il y a Lee Marvin, notre héros de ce jour, qui pendant ces années 50-60 attendait son heure et il l'attendra encore dans le film suivant, mais il tourne dans des films de plus en plus intéressants, puisque en 1955, on le voit dans un film de Richard Fleischer, un réalisateur bien oublié, bien mésestimé, alors que Richard Fleischer est le réalisateur de quelques chefs-d'œuvre, Les Vikings, dont les fidèles de 24 notes secondes savent combien il compte dans ma filmographie personnelle, mais ce fut aussi l'homme derrière 20 milieux sous les mers, un film de Disney qui était une très belle adaptation de Jules Verne, et aussi top 10, Le Voyage Fantastique, où l'on voyait, alors j'ai un trou, mais je vous redirai après avoir écouté un extrait, un film qui, d'après Isaac Asimov, qui se passait dans le corps humain. Raquel Welch, voilà, c'est ça, Raquel Welch, luttant dans sa combinaison blanche contre des globules du même nom. Ma foi, quand on a 16 ans, ça ne s'oublie pas. Mais je m'égare, nous étions avec Lee Marvin et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film, donc, de Richard Fleischer, tourné en 1955. Le film, il s'appelle Les Inconnus dans la ville, encore en français. En anglais, ça s'appelle Violent Saturday, c'est-à-dire Samedi noir ou Samedi violent. La musique, elle est signée de Hugo Friedhofer et l'émission, elle est signée de 24 notes secondes. Un extrait bien inquiétant de la bande originale des Inconnus dans la ville, Violent Saturday, un film de Richard Fleischer et la musique d'Hugo Friedhofer. Là encore, Lee Marvin, notre héros de ce jour, jouait le second rôle puisque les principaux étaient tenus par Victor Macher et Richard Egan pour une histoire policière assez complexe d'une petite ville. Les scénaristes hollywoodiens appellent ça la crise libératrice, c'est-à-dire qu'on vous présente une communauté heureuse, on vous présente ensuite une crise qui risque et qui menace la communauté et on vous présente enfin la façon dont la communauté, surmontant ses dissensions, ses différences, etc., réussit à surmonter la crise. C'était le cas dans ce film de Richard Fleischer qui voyait, comme beaucoup d'autres tournés par Lee Marvin ces années-là, eh bien, la lente progression du dit Lee Marvin, dont j'ai oublié de vous préciser qu'en plus d'avoir eu une vie pré-cinématographique assez difficile, eh bien, il était impressionnant et imposant. Puis que l'homme mesurait 1m91, ce qui est quand même pas négligeable, pour 80 kilos, ce qui quand même fait peu, et donc contribuait à une silhouette ascétique et de fait en soi imposante de par sa simple présence. Je ne sais plus, c'était le genre de personne dont on disait quand il entre dans une salle, eh bien les conversations s'arrêtent. C'était le cas de Lee Marvin qui, dans les années qui suivirent les Inconnus dans la ville, eh bien gravit lentement mais sûrement les échelons vers la gloire, et il participa notamment à ce gravissement, et bien sa participation à 3 films aux côtés de John Wayne, puisqu'on le vit dans les Comancheros de Michael Curtis tourné en 1961, et surtout alors dans un très bon film de John Ford, La Taverne de l'Irlandais, tourné en 63, et dans un chef-d'œuvre absolu, L'homme qui tua Liberty Valance, tourné en 1962. À partir de là, eh bien, Lee Marvin tint les têtes d'affiche et ce fut notamment le cas dans À bout portant, The Killers, tourné en 1964 par Don Siegel, qui était le remake d'un film de Robert Siodmak qui lui-même avait vu ce film, les débuts de Burt Lancaster. Et ensuite, eh bien, on le vit dans de grosses productions. 1965, ce fut la consécration, puisqu'il obtint l'Oscar du meilleur acteur pour un film qui était une sorte de western parodique, Cat Ballou, d'Eliot Silverstein, film duquel j'aurais bien voulu, puisqu'il y avait Jane Fonda, la délicieuse, à ses côtés, vous proposer un extrait musical, mais les mystères de l'Internet font que je n'ai pas trouvé quelque chose de convaincant. Donc, on va plutôt écouter un extrait d'un western pur et dur, signé Richard Brooks en 1966, dans lequel, justement, on retrouvait, est-ce un hasard, le dénommé Burt Lancaster, qui partageait la vedette aux côtés de Lee Marvin, désormais star. À leur côté, il y a de solides second rôles, ou presque, puisqu'on retrouvait Robert Ryan, Jack Palance, Claudia Cardinale, Woody Strode, que les amateurs de John Ford aussi connaissent. Le film était un western, donc, quoi qu'il se passait en 1917 pendant la Révolution mexicaine, et la bande originale a été signée du français Maurice Jarre. Les Professionnels, en anglais, ça s'appelait... Ah ben, ça s'appelait The Professionals, dis donc. 24 notes secondes. Thank you. Ah bah si, c'est fini, un extrait de la bande originale des Professionnels, la musique de Maurice Jarre. Je vous ai dit que le film se passait en 1917 pendant la Révolution mexicaine. Bon, du coup, je ne suis pas certain que la partition de Maurice Jarre soit ce qui se fait de plus original dans le genre. Il faut bien l'avouer, mais en tout cas, c'était l'occasion pour Lee Marvin, notre sujet du jour, eh bien, de se conforter dans son statut de star, on peut bien le dire, puisque à partir du moment où vous obtenez un Oscar, eh bien, ça veut dire quand même que vous êtes quelqu'un à Hollywood, et dans les années qui suivirent, qui furent ces grandes années, il faut bien le reconnaître, comme tous les parcours d'acteurs, eh bien, il y a l'ascension, il y a le pinacle, et puis il y a, sinon la chute, du moins la descente. Il en fut de Lee Marvin, comme de tous les autres et de toutes les autres, à part Meryl Streep, bien sûr. Et dans les années qui suivirent, on le retrouva notamment dans Les Douze Salopards, un film de Robert Aldrich, tourné en 1967, au casting impressionnant et qui fut un succès encore plus impressionnant. Robert Aldrich, avec lequel il avait tourné en 1956, donc du temps où il était quand même beaucoup moins connu. Un film de guerre, là encore, comme Les Douze Salopards, mais peut-être beaucoup plus âpre, beaucoup plus dur et beaucoup plus intelligent. Ça s'appelait Attaque, de Robert Aldrich, et c'était très très bien, beaucoup mieux que Les Douze Salopards, à vrai dire. Mais par contre, Les Douze Salopards présentaient l'avantage d'un casting très large, et évidemment avec tout ce que ça pouvait comporter de ficelles scénaristiques. Cette même année 1967, eh bien, Lee Marvin tourna ce qu'on peut considérer comme son plus grand film, un film de John Boorman, dont, un réalisateur britannique, dont c'était seulement le deuxième film aux États-Unis et qui signera ensuite, excusez du peu, Délivrance notamment, et puis Zardoz avec Sean Connery et Charlotte Rampling, que moi j'aime bien, mais je suis le seul sans doute dans ce monde si matérialiste. Et en 1967, eh bien, Point Blank, en français Le Point de Non-Retour, c'était l'occasion pour John Boorman de toucher à un des genres les plus, je dirais, mainstream du cinéma américain, le film policier. Mais il le fit, excusez-moi, amis américains et amies américaines, il le fit avec l'intelligence et la subtilité propres à nous autres peuplades européennes, ce qui fait que ce film, relativement classique dans son récit, était tout à fait éblouissant dans son montage, dans sa forme et dans son interprétation. Et il faut reconnaître à Lee Marvin, eh bien, le courage d'avoir fait une totale confiance, hein, un réalisateur qui, malgré tout, venant d'Europe, en plus, n'était certainement pas le plus mainstream du cinéma américain des années 70. Et donc, Lee Marvin fit une confiance d'autant plus totale à John Boorman qu'il le retrouva l'année suivante dans le fameux duel dans le Pacifique, pardonnez-moi, où on voyait, sauf erreur de ma part, Toshiro Mifune et Lee Marvin dans une espèce de duel absurde, un soldat américain contre un soldat japonais sur une île du Pacifique. Mais là encore, avec le talent de metteur en scène et de montage de John Boorman, eh bien, tout cela a été très réussi. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film, Le Point de Non-Retour, mais après que je vous ai indiqué qu'aux côtés de Lee Marvin, on retrouvait la délicieuse Angie Dickinson aux jambes si longues, qu'on avait vu aussi, c'est John Ford. Hommage, Angie, we love you. Allez, la musique du Point de Non-Retour, elle était signée de Johnny Mandel, et on l'écoute dans 24 notes secondes. Le jazz lyrique et chaleureux de Johnny Mandel pour un extrait de la bande originale du Point de non-retour, un film de John Boorman tourné en 1967. Alors j'avais mal lu ma petite fiche. Le Point de non-retour était le premier film américain de John Boorman et seulement ce second film. Le premier s'appelait Catch Me If You Can. Ma foi, je ne l'ai pas vu et donc comme je l'ai indiqué, cette collaboration fut suffisamment fructueuse pour que en 1968, eh bien ces deux-là se retrouvent pour duel dans le Pacifique, avant que Lee Marvin eh bien, poursuive une carrière. Alors je l'ai dit, il était arrivé au sommet avec Cat Ballou, Les Professionnels, Les Douze Salopards et quelques autres. Ensuite, eh bien, il sera plutôt sur le déclin et de sa filmographie des années 70-80, on pourra retenir, en étant très gentil, L'Empereur du Nord, toujours du solide Robert Aldrich, tourné en 1973. On pourra retenir surtout The Big Red One, tourné par Samuel Fuller en 1980, où Samuel Fuller racontait, lui, ses souvenirs de soldats de la reconquête de l'Europe et notamment de la France avec le débarquement jusqu'à la découverte des camps de concentration. Lee Marvin, lui, comme je l'ai dit, s'était illustré sur les terrains du Pacifique, mais ma foi, je pense que ces deux hommes avaient beaucoup à se dire. Et ensuite, ensuite, sa carrière fut quand même relativement peu intéressante jusqu'à ce qu'il décède le 29 août 1987 à Tucson, dans l'Arizona. Et on va écouter pour conclure, c'est pas une rareté, mais un peu quand même, on va écouter pour conclure un extrait de la bande originale d'un film où Lee Marvin chante. Ça s'appelle La Kermesse de l'Ouest, un film tourné en 1969 par Joshua Logan, un western comédie musicale qui coûta une somme absolument colossale de 20 millions de dollars. Pour l'époque, c'était énorme et qui fut un bide absolument total, comme le disait Clint Eastwood, qui partageait la vedette aux côtés de Lee Marvin. J'ai vu des millions de dollars dépensés sur une stupidité comme la Kermesse de l'Ouest et j'ai juré que ça ne m'arriverait jamais. Ma foi, c'est peut-être pas la meilleure des recommandations pour vous en laisser écouter un extrait, mais on va le faire quand même. La Kermesse de l'Ouest, et en anglais, dis donc, ça s'appelait Paint Your Wagon, dans 24 notes secondes.
Star. Wheels are made for rolling, mules. are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Sorry Lee, au revoir, à bientôt, 24 secondes c'est fini, bye bye.
Wandering star, I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I